Bienvenue dans The Debate. Aujourd'hui, on se penche sur un moment clé de l'histoire européenne, l'élection présidentielle autrichienne de 1986.
Tout à fait. Une élection qui a, disons brutalement, exposé les non-dits d'un pays entier.
Exactement. Pour poser les bases, Kurt Waldheim remporte le scrutin avec 53,9% des suffrages face à Kurt Steirer. Et ce résultat arrive juste après des révélations très lourdes.
Oui, les révélations sur son service actif dans la Wehrmacht, dans les Balkans, sous les ordres du général Löhr.
C'est ça. Et ma position pour notre échange aujourd'hui, c'est que cette victoire n'est pas un accident. C'est avant tout le reflet d'une amnésie sociétale, d'une profonde protection psychologique collective.
Eh bien, je l'aborde sous un autre angle pour ma part. Je soutiens que cette élection relève plutôt d'une instrumentalisation active. C'est vraiment l'invention d'une toute nouvelle stratégie populiste et nationaliste.
D'accord. Mais regardons la ligne de défense de Waldheim à l'époque. Il se présentait comme un simple interprète, un fonctionnaire en uniforme qui n'aurait fait qu'accomplir son devoir.
Le fameux rouage de la machine, oui. L'excuse classique.
Voilà, absolument. Et cette phrase a résonné si puissamment dans les foyers autrichiens parce qu'elle protégeait une illusion vitale, le mythe de la première victime issue de 1943.
Ah, la déclaration de Moscou qui absolvait diplomatiquement l'Autriche.
Exactement. C'était l'excuse parfaite pour ne pas regarder le passé en face. En votant pour Waldheim, la génération des pères et des grands-pères protégeait son propre silence, en fait.
Je comprends cette idée de réaction traumatique passive, mais la campagne de Waldheim, sous l'impulsion de Michael Graf, son directeur de campagne, c'était tout sauf un repli silencieux.
C'est-à-dire, vous pensez que c'était délibérément agressif ?
Totalement. Ils ont activement transformé ces accusations historiques en une xénophobie de défi. Ce n'était pas passif, c'était une arme politique assumée.
C'est un point de vue fort.
Regardez les panneaux électoraux de l'époque, couverts par ce fameux slogan « Nous les Autrichiens, nous élirons qui nous voulons ». La campagne s'est servie de la presse anglo-saxonne pour fabriquer un patriotisme défensif de toutes pièces.
C'est vrai que la droite a sauté sur l'occasion, mais comment expliquez-vous alors la paralysie structurelle des sociaux-démocrates ?
C'est vrai qu'ils étaient complètement tétanisés.
Ah, voilà, Ray ! Au point que Kurt Steyer refuse carrément d'utiliser les preuves documentaires qui fuitaient sur les déportations. Ça montre bien que c'est la société entière de manière transversale qui était incapable de condamner l'un des siens.
Je vous l'accorde, la gauche était paralysée. Ils espéraient probablement séduire l'électorat conservateur par ce silence. Mais l'extrême droite, elle, a consciemment exploité cette faille béante.
En récupérant le mouvement Ray.
Précisément. Ce n'est pas un hasard si, dès septembre 1986, Jörg Haider prend le contrôle du Parti de la Liberté. Haider a observé la campagne de Waldheim et a compris la formule magique.
Et cette formule, ce serait d'inverser la culpabilité ?
C'est ça. Si vous transformez une critique historique légitime en une attaque contre la fierté nationale, bah vous rendez vos électeurs immunisés contre les faits. Il a capitalisé sur cette énergie décomplexée.
Je vois la logique, je comprends pourquoi vous pensez cela, mais permettez-moi de vous donner une perspective différente. On ne peut pas ignorer la nature même des faits reprochés qui rendaient cette manipulation possible ?
Vous parlez de l'éloignement du front A.
Oui, ce qui a été mis en lumière, c'est le crime de bureaucratie. C'est abstrait. C'est comme une immense chaîne de montage. Si vous ne serrez qu'un seul boulon, vous ne vous sentez pas responsable du produit final.
Je vois où vous voulez en venir.
Pour l'électeur moyen, l'absence de participation directe aux exécutions rendait la culpabilité impossible à admettre. C'est cette mécanique du mensonge par omission qui a nécessité un lent processus d'introspection qui ne culmine qu'en 1991 avec le discours de Franz Vranitzky.
C'est une métaphore très éclairante, c'est vrai. Mais l'argument de l'abstraction se heurte à une réalité très concrète sur le terrain. Ça n'explique pas les affrontements générationnels brutaux dans les rues de Vienne.
Les manifestations.
Oui.
Oui. Les jeunes manifestants anti-Waldheim se faisaient invectiver par des aînés qui réutilisaient sans gêne un vocabulaire des années 30. La société s'est fracturée.
C'était très violent, effectivement.
Le lent travail des historiens a suivi, bien sûr, mais sur le moment, c'était une rupture militante immédiate et viscérale, pas du tout un débat théorique sur la chaîne de commandement.
Ce qui est fascinant dans cette rupture, c'est l'asymétrie de ses conséquences. D'un côté, la société autrichienne a finalement été contrainte à cette introspection, déchirant son pacte mémoriel.
Et de l'autre, la réaction internationale. Voilà, l'isolement a été immédiat et implacable. Dès 1987, Waldheim est interdit de séjour aux États-Unis. La présidence s'est refermée sur lui comme une prison dorée, en quelque sorte.
Tout à fait. Et je pense que nous pouvons au moins nous accorder sur un point. Cette élection de 1986 a vraiment normalisé une rhétorique anti-institutionnelle redoutable.
Absolument. Le fait de retourner des accusations accablantes en un prétendu complot mondial, c'est devenu un classique.
Ça a créé un moule politique qui s'est installé durablement dans les gouvernements européens par la suite.
Une méthode qui nous ramène à notre point de départ. La manière dont les démocraties choisissent de gérer leurs propres mensonges finit toujours par définir leur avenir. Reste à savoir si l'on préfère affronter l'histoire ou continuer de feindre l'ignorance. Il y a matière à réfléchir.